Radiogramme, une émission du Fonds régional d'art contemporain Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dollinger explore les comportements humains. Il tente d'imaginer des alternatives, mais sans souci réel d'efficacité. De toute façon, l'art ne communique rien. Contrairement au registre mythique, qui prévalait jusqu'au surréalisme, l'art de Dollinger ne passe plus par le truchement de l'histoire. Il l'a fait écrire directement par le spectateur qui hésite entre la position du Minotaure ou de Thésée, entre la pulsion et sa domination. À travers son œuvre, la psychanalyse prend place comme une science humaine que l'art ne peut plus négliger. Un siècle après sa naissance, alors que le critique d'art a tenté de l'éloigner avec mépris, elle ressurgit comme un outil majeur. Longtemps, elle n'a pas été populaire comme Freud l'avait lui-même prédit en 1938 à Londres, juste avant sa mort. Christine Massel. Olivier Dollinger présente au FRAC, dans le cadre de l'exposition Partenaire particulier, proposée par Claire Moulaine et Mathilde Villeneuve, Spirit Voice on Air, une cabine de spiritisme à l'intérieur de laquelle l'artiste invite le public à rencontrer un médium lors de quelques séances privées. En dehors de ces rendez-vous, les spectateurs peuvent écouter les traces sonores des différents entretiens qui ont eu lieu dans cette cellule, espace clos et feutré, qui ouvre sur un inconnu, un ailleurs, l'au-delà peut-être. Le travail d'Olivier Dollinger a émergé au milieu des années 90. Ses premières vidéos, en ce moment sur France Info ou quelques blagues carambars, mettent en scène un personnage proche de la figure de l'idiot. Un personnage acculé par la surinformation globale, en perte de repère avec lui-même et son environnement. Olivier Dollinger a suivi une formation d'acteur. Comment l'a-t-il utilisé dans ses premières vidéos ?
Disons que ce travail d'acteur, en fait, il m'a servi à trouver un ton assez juste dans ce travail-là, parce que j'avais déjà envie de sortir un peu la performance de son carcan présupposé, qui était ne pas jouer, etc. Enfin, vraiment, les données classiques de la performance. Je voulais déjà qu'il y ait une ambiguïté, en fait, à savoir si c'était une vraie performance ou si c'était joué. Et cette série de performances, enfin de vidéos performances domestiques, qui contient aussi des contradictions déjà à l'intérieur même de la formulation, parce qu'une performance normalement c'est en public, or celle-ci était filmée dans mon appartement, etc. Donc ça déplaçait déjà le cadre un peu de la performance de l'espace public à l'espace privé. Donc dans ces vidéos-là, dans cette série, à travers ce personnage donc un peu idiot, un peu neutre, aux prises avec soit des grandes thématiques, soit des produits culturels de masse, comme le film Apocalypse Now. Par exemple, je vais peut-être parler de cette vidéo-là, Apocalypse Now, qui dure 6 minutes. L'idée était tout simplement de reprendre une scène clé du film, qui est l'attaque des hélicoptères sur la musique des Valkyries de Wagner. Il se trouve tout simplement qu'en fait, à ce moment-là, je suis dans mon atelier, je mets les Valkyries de Wagner et je tourne en rond finalement en tentant d'imiter les hélicoptères du film pendant 6 minutes sur cette musique. Je reprenais aussi une certaine esthétique en fait des vidéos des années 70 chez Bruce Neumann ou chez Vito Acconci, mais déplacées. Voilà, l'idée c'était de que la durée ou le temps de l'expérience soit acculée à des produits culturels de masse, à travers ce personnage idiot qui essaye de se débrouiller avec, ou de s'en débrouiller, et qui finalement devient un peu autiste.
Dans ces mêmes années, c'est avec Andy, mannequin utilisé pour des exercices de secourisme, que l'artiste explore quelques-unes de ses préoccupations sur la notion d'identité.
Andy, c'est son nom commercial, c'est pas moi qui l'ai appelé Andy en référence à Andy Warhol ou quoi. C'était une sorte de kit qui s'appelle d'ailleurs, le nom complet c'est Ressuscite Kit Andy. Donc c'est une mallette dans laquelle effectivement il y a un mannequin de réanimation, mannequin dont on se sert dans les cours de secourisme pour apprendre tout simplement à sauver l'autre. Donc c'est en même temps, moi, ce qui m'intéressait dans ce mannequin, c'était une sorte de contradiction dans l'objet, puisque en fait on passe un objet sur lequel on s'acharne à donner vie alors que c'est un objet. Donc oui, donc ce mannequin m'intéressait d'abord pour cette dimension-là, cette contradiction inhérente qu'il avait. Déjà en fait pour l'acquérir, je ne l'ai pas acheté en fait, je suis justement passé par une expérience particulière puisque je me suis inscrit à la Croix-Rouge et j'ai suivi un stage de sauveteur en fait avec le mannequin. Donc c'est un objet un peu, voilà, un peu particulier puisque je ne l'ai pas acheté mais je l'ai acquis à travers une expérience avec lui. C'est-à-dire que pendant que je prenais les cours, j'avais des discussions tous les jours avec les responsables de la Croix-Rouge pour pouvoir repartir avec le mannequin, repartir avec Andy chez moi. En même temps, à l'époque, je m'intéressais aussi à déplacer, encore une fois, ma pratique de l'art, non pas dans le champ de l'art, mais dans n'importe quel autre champ de la société. Donc pendant les cours, bah, tout le monde me demandait aussi pourquoi j'étais là moi, etc. Et quand je leur répondais que je faisais de l'art, ils ne comprenaient pas forcément. Donc ça générait en fait des discussions, des rencontres autour finalement de ce que c'est l'art avec des gens dans ce cours. Voilà. Donc ça c'était finalement la première pièce que j'ai faite avec le mannequin qui a constitué, oui, la première étape lors d'une soirée où j'ai présenté un film que j'ai réalisé durant les cours, film qui mixait finalement les discussions que j'avais avec les gens et les situations d'urgence en fait avec lesquelles on s'entraîne avec le mannequin Andy. Voilà, ça c'était la première étape du travail. Après, il y a une autre pièce, une autre vidéo que j'ai faite avec le mannequin pour une exposition personnelle dans un centre d'art à Valence. J'ai passé une semaine en compagnie du mannequin dans l'espace d'exposition vide du centre d'art à finalement installer une relation beaucoup plus particulière avec le mannequin, c'est-à-dire à sortir d'un langage appris avec l'objet à un langage très personnel. Concrètement, en fait, je passais une heure par jour dans l'espace d'exposition avec le mannequin. Je le faisais marcher dans tout l'espace, je lui parlais, je lui chantais des chansons, etc. Et voilà, il y a une sorte de dialogue relationnel qui s'est établi avec le mannequin.
Andy est ensuite photographié avec les proches de l'artiste.
Il y a eu une troisième étape où, finalement, le mannequin, je l'ai mise à disposition des gens proches de moi en leur demandant tout simplement d'avoir un geste pour lui, de créer une mini-situation chez eux avec le mannequin, de se mettre en scène finalement eux-mêmes au cours d'une séance de photographie avec le mannequin. Donc là, le mannequin commençait à avoir une vie sociale, on va dire. Il y a 20 personnes qui ont participé à ce projet-là. Le résultat, c'est un diaporama en fait, où on voit donc Andy à chaque fois avec une personne différente, dans une situation différente, une ambiance différente, un sentiment, un geste différent. Le diaporama tourne très très vite, donc finalement Andy passe de main en main, de manière très rapide, et commence à acquérir justement aussi une ambiguïté sur son identité, puisqu'il passe de la douceur à la violence, à l'indifférence, etc. Voilà, ça c'était la troisième étape. La quatrième étape, ça a été un travail fait avec des enfants, où cette fois-ci, Andy était mis à disposition comme un personnage de fiction qui pouvait investir. Chaque enfant a écrit une sorte de mini scénario, le mettant en scène lui-même avec le mannequin. Et l'ensemble est une installation vidéo, une triple projection où, voilà, encore une fois, Andy est dans un paysage, un décor et acquiert petit à petit une histoire.
Puis Olivier Dolinger le laisse dans un espace d'exposition fermé avec une caméra de surveillance.
Le travail s'est clos en fait en 2000. Cette fois-ci, j'ai mis Andy à disposition du public d'une exposition dans une petite salle fermée, une cabine, où les gens pouvaient rentrer. Il était en libre-service finalement. Passer le temps qu'il voulait avec le mannequin, faire ce qu'il voulait avec lui, sachant tout simplement qu'ils étaient filmés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, étonnamment, sur les 10-12 personnes qui ont participé à l'expérience, 8 ont déchargé une violence incroyable avec le mannequin, et que le mannequin a été, enfin, Guy a été détruit de manière naturelle, et ce qui a clos le travail. De toute manière, c'est un travail qui allait s'arrêter. Il s'est arrêté de cette manière-là, c'était de manière naturelle, et c'était pour moi très très bien que ça finisse comme ça, en fait. Voilà, et en fait, ce travail avec Andy, moi je voyais ça comme un objet-outil avec lequel finalement questionner effectivement l'identité, parce que suivant l'éclairage qu'on lui donne, c'est vrai qu'il pouvait être autant masculin que féminin, autant adolescent qu'adulte. C'est comme ça une sorte d'objet transitionnel finalement sur lequel ou décharger des pulsions agressives comme à la fin, ou commencer à construire une histoire avec les enfants, etc. C'est une sorte d'objet fictionnel en même temps. Une sorte de kit identitaire en même temps. Voilà.
En 1998, l'artiste réalise Tears Builder, un film tourné en plan séquence, caméra à l'épaule, dans lequel un bodybuilder erre dans l'espace d'une galerie vide. Dans Tears Builder, le pantin et l'homme ne font qu'un. La question de la relation semble plus intime, l'image est une médiation de soi à soi. L'artiste filme les déplacements aléatoires d'un bodybuilder dans une galerie d'art contemporain déserte. Corps d'athlète au repos, corps mécanisé par l'image, corps construit dans la mainmise sociale. Il marche lentement, effectue pour bander ses muscles des gestes improbables. Les mouvements de caméra, le temps des déplacements induisent un glissement progressif de l'appréhension de l'image. L'espace du corps et le temps filmique rentrent en contradiction pour révéler un flottement identitaire. L'apparence de l'homme, d'abord engoncé dans le cliché, s'échappe progressivement, renvoyant au spectateur la mécanique de son propre regard. Ce n'est plus le corps athlétique qui est instrumentalisé. Léa Gauthier.
Le bodybuilder, c'est une sorte de mannequin vivant, finalement, aussi, puisque c'est un corps un peu artefact, enfin, en tout cas fabriqué artificiellement de toutes pièces. Effectivement, la consigne que je lui avais donnée était tout simplement de se mettre dans les conditions physiques et psychologiques du moment qui précède une montée sur un podium d'exhibition. Ce qui m'intéresse aussi dans mon travail, effectivement, ce sont des moments particuliers, comme un moment effectivement d'avant le spectacle, ou d'avant le langage et d'après le spectacle, de trouver toujours des moments où, intermédiaires finalement, des moments de creux dans lesquels rejouer finalement les choses aussi. C'est-à-dire que concrètement, ce qui se passe dans la vidéo, c'est que ce sont des très longs plans séquences, assemblés les uns à la suite des autres. Et finalement, le temps de cette expérience m'a permis de passer d'une image, encore une fois, un peu archétypale, un peu stéréotypée, du super-héros, à totalement autre chose, à un autre monde. C'est-à-dire que le temps de l'expérience a permis de fissurer l'image stéréotypée dans laquelle lui se projette, et nous, on se projette également vis-à-vis d'un personnage comme ça, en fait. Parce qu'effectivement, on a tourné toute une après-midi, et le bodybuilder, en fait, est passé vraiment par plusieurs états différents, entre une violence avec l'espace et petit à petit une beaucoup plus grande sensualité avec l'espace, avec des moments de doute, etc. Mais tout ça, en fait, s'est vu petit à petit sur son visage et sur son corps, ce qui a aussi modifié les attitudes du corps qu'il avait par rapport à l'espace. Voilà, et on rentre comme ça dans une image très frontale au début, image spectaculaire d'un bodybuilder, et petit à petit on glisse en fait vers plutôt la psychologie finalement qu'il y a derrière en fait une image archétypale.
Olivier Dolinger ne donne pas de véritables consignes aux personnes qu'il filme. Je m'intéresse plus à la captation qu'à la mise en scène. J'essaie d'une certaine manière de laisser la mise en scène ouverte aux accidents.
Ce travail vidéo là, ou dans d'autres pièces aussi, comme Norma Jean, j'aime bien finalement que les personnes que je choisis à un moment donné prennent en charge eux-mêmes leur propre mise en image ou leur propre mise en scène. En tout cas, je laisse une mise en scène ouverte dans laquelle l'autre finalement a tout loisir de se représenter lui-même, de se mettre en scène lui-même. C'est une sorte de partage finalement de la mise en scène ou de la mise en image plutôt du travail. Donc il n'y a pas vraiment de direction, ce que je veux dire, il n'y a pas vraiment de direction d'acteur ou de direction très autoritaire en tout cas.
En 2003, l'artiste présente Overdrive, une exposition à la Galerie chez Valentin, où installations et films mettent en scène des adolescents s'adonnant au SPL, le Sound Pleasure Leisure.
C'est une installation qui est peut-être un peu à part dans mon travail. J'ai pris connaissance tout simplement de ce phénomène qui vient des États-Unis, ou qui consiste effectivement à customiser la voiture, mais uniquement sur l'aspect sonore, c'est-à-dire à suramplifier. Par exemple, ils peuvent avoir 15 amplis dans le coffre, des enceintes partout, etc. Et finalement, à se retrouver dans des meetings où ils font des concours, et c'est à celui qui aura le plus haut volume sonore à l'intérieur de la voiture. Voilà, celui-ci gagne. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressaient dans ce phénomène. C'était d'abord, encore une fois, par rapport à la figure de la voiture dans la modernité, qui l'a complètement déviée, c'est-à-dire qu'elle ne sert plus à rouler, parce qu'en fait, il ne roule plus. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la vitesse est complètement arrêté, parce que les voitures sont arrêtées, c'est uniquement le son qui les intéresse. Mais ils se projettent en même temps dans quelque chose. Mais ça n'a plus rien à voir avec la vitesse, ça se passe dans le son, uniquement dans une sorte de matrice sonore qui peut-être justement rappelle la vitesse. Mais c'est-à-dire qu'on arrive dans une autre dimension. Tout ça à travers un concours qui en même temps est d'une idiotie incroyable, parce qu'il y a des gens qui font 800 km, qui traversent la France pour venir dans ces concours. Le concours dure une minute, montre en main, c'est-à-dire que la voiture arrive, on leur met un micro à l'intérieur de la voiture, ils sont à l'intérieur de la voiture avec un casque, ils passent trois fréquences et ils sont jugés sur trois fréquences d'une fraction de seconde. Et puis ils s'en vont, et je trouvais ça très beckettien quelque part, moi. Aussi dans l'attitude, quoi, très stupide. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait à la fois une beauté dans ce geste-là. Après, j'avais pas du tout envie de l'aborder sous la forme du documentaire ou du reportage, ou etc. Donc, je me suis beaucoup questionné sur la manière de ramener ça à l'intérieur de mon travail, puisque dans ce phénomène, il y avait des préoccupations qui étaient très proches de mes préoccupations à moi sur information, sur communication. Je voyais un peu ça, un peu tout ce bruit de la surinformation, des images, etc., réduit à ce son, comme ça. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait encore une fois, peut-être que le moyen de parler de ça ou d'arriver à ramener ça dans mon travail, c'était encore une fois de rentrer finalement dans une sorte de psychologie des sens, de ce qui se passe, de manière sensitive à ce moment-là précis, lorsqu'ils ressentent ces vibrations sonores intenses sur quelques fractions de secondes, et de ramener ça finalement à l'intérieur d'un dispositif plastique mis directement dans un espace. Donc finalement, l'installation se compose d'un film où on a uniquement les visages, mis au ralenti parce que ça dure qu'une fraction de seconde, où finalement les visages cherchent, sont filmés à travers un pare-brise, donc sont dans une matrice, et les yeux cherchent à l'extérieur de la voiture finalement leur score qui s'affiche à l'extérieur de la voiture sur un ordinateur. Donc ça, c'est assez pour l'image. Et le son, en fait, j'ai repris leurs fréquences, les fréquences qu'ils utilisent pour tester leur matériel lors de ces concours, et j'en ai fait une composition sonore qui est diffusée donc dans la galerie en reprenant finalement leur matériel à eux, c'est-à-dire des énormes amplificateurs, des caissons de basse avec des subwoofers plantés dessus, et finalement tout ce matériel sonore à l'intérieur de la galerie crée un souffle. Parce que finalement, ces fréquences créent uniquement du souffle, une sorte de vent qui se diffuse à l'intérieur de la galerie. Ce qui fait que le spectateur, lorsqu'il est au centre, lorsqu'il voit l'image de ses visages sur la projection vidéo, est entouré de basses fréquences et de souffles qui l'environnent. Ce qui crée chez le spectateur une sorte de perte d'équilibre et de rupture entre l'image et le son. Ce qui fait que finalement, le spectateur est au milieu, encore une fois, d'une expérience sensitive assez forte. Ouais, c'était une sorte d'espace psychologique par rapport à ce phénomène, en tout cas, que j'ai essayé de mettre en place. Et non pas un documentaire, ce que je disais au début. Non pas une distance, mais finalement être au cœur de l'expérience. Voilà.
As I search for a piece of kindness, and I find Hitler in my heart, and he is whispering as sure as love will spring from the well of blood in vain, oh Jew, the well of blood in vain. And I fell into a deeper precipice with mouths of rapists, jaws dropped down, jaws dropped down, jaws dropped. Corpses, flowers grow, and they find Hitler in my heart. From the corpses, flowers grow, and they find Hitler in my heart. From the corpses, flowers grow, flowers grow.
Plus récemment, il met en scène avec le projet Norma Jean des thèmes qui lui sont chers, comme le mimétisme, l'identification, la performance, etc. Pour le film réalisé en 2003 à Los Angeles, 6 actrices sous hypnose ont été invitées à se mettre dans la peau de Marilyn Monroe. 6 femmes en robe du soir, marquées dans leur histoire personnelle ou professionnelle par la star. Pour recruter ces 6 actrices, qui toutes ont un lien avec Marilyn, Olivier Dolinger fait passer une petite annonce.
Les actrices, en fait, elles avaient toutes effectivement un lien ou quelque chose à dire ou quelque chose à revendiquer avec cette image de Marilyn Monroe. Ça allait en fait de la plus jeune des actrices, qui avait 18 ans, qui était fan absolue de Marilyn Monroe, qui avait une collection de photographies depuis l'âge de 12 ans avec des photos inédites, etc., qui lui vouait un vrai culte. Ça allait donc de cette fan à une des actrices qui avait une revendication politique par rapport à Marilyn Monroe, parce que à Los Angeles, sur Hollywood Boulevard, il y a plein de sosies de Marilyn qui se baladent ou qui font des réclames, etc. Et elle trouvait que l'image de Marilyn se dégradait de plus en plus, donc elle militait pour une réhabilitation un peu plus soft de l'image de Marilyn sur Hollywood Boulevard. À une autre des actrices qui était pas le sosie, mais qui avait travaillé toute une mimétique par rapport à Marilyn Monroe, incroyable, et qu'on contactait toujours dès qu'il y avait un film à faire, un court-métrage ou un film, c'est elle qu'on contactait à Los Angeles pour ça. Donc tout avait un lien fort, en tout cas avec l'image de Marilyn. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que je les ai invitées à participer au film. En tout cas, c'est ce qui m'intéressait plus que leur jeu de comédienne. On n'a jamais fait d'essai ou de casting, en tout cas dans ce sens-là, quoi.
This Marilyn Monroe perhaps has a certain aroma. Perhaps you can smell the Chanel number 5. Perhaps there's a certain sense of feeling about the clothes you're wearing that transport you back in time to that moment. And just allow yourself to become Marilyn Monroe right now. And that's good. And being Marilyn Monroe as an image or as part of a movie, perhaps you can allow yourself to be within that feeling and thought. And now I want you to begin to think about being the real Marilyn Monroe. Not the Marilyn Monroe of images, but the real Marilyn Monroe of deep, deep emotion. And I'm going to count down from 10 to 1. When we reach 1, we're going to be Marilyn Monroe.
L'hypnose est un moyen pour moi d'ouvrir l'image, de l'étirer.
Ce qui m'intéressait dans ce projet, je voyais ça un peu comme un travail d'archéologue qui va faire des fouilles psychologiques chez des actrices à Los Angeles pour retrouver finalement des bribes d'images à l'intérieur de l'intimité de ces actrices et de faire revivre ces bribes d'images intimes à travers une séance d'hypnose. Parce que ce qui se passe finalement concrètement dans le film, l'hypnotiseur les amène donc petit à petit à se substituer à une image, à l'image de Marilyn, puis à l'incarner et à la vivre. À la vivre sous hypnose pendant une quinzaine de minutes, à vivre uniquement les états émotionnels de Marilyn Monroe durant 15 minutes. Avec l'hypnotiseur, on a beaucoup travaillé sur la suggestion qui allait leur être amenée, où moi je voulais vraiment qu'on passe finalement d'une image lisse et parfaite à investir l'image et à retourner l'image et à ce que les actrices petit à petit rentrent. Et c'est un peu comme passer derrière le miroir.
le cadre du film, une chambre d'hôtel cossue de Los Angeles.
Oui, c'est un hôtel sur Hollywood Boulevard, en fait. Je l'ai choisi, j'ai choisi la chambre, surtout parce que d'abord, ça donnait sur Los Angeles. Et la disposition, l'architecture, l'espace de la chambre m'intéressait parce que c'était un peu distribué étrangement, parce que le lit était sur une sorte d'estrade. Et c'est un peu comme si effectivement l'intimité était surexposée. Donc c'est un élément qui m'intéressait. Et puis il y avait ce balcon qui donnait effectivement sur Los Angeles. Il était en même temps un peu sans âge, dans le style, difficilement situable. Voilà.
Très chargé aussi.
Oui, il y avait assez chargé, ouais. Il y avait des peintures au mur, pareil, qui mélangeaient les époques. Je trouve ça intéressant parce que ça, l'hypnose, c'est quand même un moment, un endroit où. Justement, les temps s'entremêlent totalement entre passé, présent, avenir. On est un peu dans un no man's time, quoi. Et j'aimais bien. C'est une dimension que j'aimais bien. J'aimais bien que ça se retrouve, effectivement, aussi dans le décor même de la chambre. Moi, ce qui m'intéressait aussi, évidemment, c'était de le faire à Los Angeles et non pas dans une autre ville, parce que pour moi, Los Angeles, c'est l'usine à rêve, c'est là où on fabrique les mythes et les fantasmes contemporains, modernes et contemporains. Donc pour moi, ça avait vraiment du sens de le faire là-bas, d'inviter des habitantes actrices de Los Angeles, parce que j'avais aussi, d'une certaine manière, envie de parler de cette ville qui fonctionne vraiment économiquement à travers l'industrie du cinéma, et ce, finalement, à travers les ouvrières de cette industrie qui sont des actrices, enfin, en tout cas, des jeunes actrices, des apprenties actrices qui veulent devenir elles-mêmes une star mondiale.
Rien que ma voix, uniquement ma voix, rien que ma voix. Et on va arriver dans un autre monde. On est sur une plage.
Under Hypnosis Statement a été réalisé dans le cadre de l'exposition Offshore, conçue par Jean-Max Collard pour le prix Ricard 2005.
L'idée, c'était de produire en fait une sorte de, encore une fois, de commentaire off de l'exposition même par son concepteur, par son commissaire, et de créer aussi une sorte de récit particulier qui juxtaposait encore une fois des images écran, des souvenirs liés à l'enfance finalement du commissaire d'exposition et ses idées directrices, ses idées ou ses images directrices de l'exposition. Il faut savoir aussi que l'exposition en fait Offshore était un peu particulière parce que Jean-Max Collard a conçu une plateforme qu'il appelait une plateforme de production qui faisait 20 mètres carrés sur laquelle il invitait tous les artistes à venir simplement poser une œuvre. Moi, je trouvais ce système peut-être un peu contraignant. Je trouvais aussi peut-être que là-dedans se cristallisait un peu tout ce qui se passe autour du commissariat, d'exposition, du curating depuis quelques années, à savoir que le curateur ou le commissaire peut pratiquement se juxtaposer au rôle ou au statut de l'artiste, puisque lui-même met tellement en scène les œuvres des artistes. Il y a une figure comme ça, assez ambiguë actuellement, en fait, sur le curateur ou le commissaire d'exposition. Donc j'avais aussi envie de parler de ça. C'est pour ça que j'ai invité lui directement à participer, à s'engager finalement, peut-être un peu plus loin aussi que les autres commissaires, ou enfin, en tout cas, que les pratiques habituelles, c'est-à-dire à ce qu'il prenne un vrai risque, lui aussi, à ce qu'il participe à une vraie expérience, et à ce qu'il se livre, d'une certaine manière, livre des choses qui ne sont pas forcément évidentes, généralement, chez un commissaire. Jean-Max a accepté, ce que je trouve très courageux de sa part, aussi. Enfin, c'est aussi une dimension, je veux dire, qu'il y a dans le travail, quoi. Moi, le film que j'ai réalisé, en fait, se trouvait donc à la suite de cette plateforme, c'est-à-dire en fin d'exposition, un peu, encore une fois, comme la chambre noire de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire de l'exposition.
En mettant ses acteurs sous hypnose, Olivier Dolinger prend aussi des risques. Le scénario, le récit se construisent dans le temps de la séance. Rien ne peut être écrit avant.
surtout dans le récit, encore une fois, parce que il s'est avéré que, qu'il avait une poésie propre, finalement, quoi, puisque à un moment donné, l'hypnotiseur l'amène sur le terrain de l'enfance, il commence à le faire partir sur une plage sur laquelle il marche, et puis il rencontre des gens de son enfance, et puis d'un coup, en fait, il se retrouve dans un ventre, il se retrouve dans une baleine, et il y a comme ça une sorte de conte un peu surréaliste qui se met en place, tout en jouxtant finalement des pensées un peu plus claires, un peu plus directrices sur la conception de son exposition. Donc quand je parlais tout à l'heure, oui, d'un récit particulier, en fait, c'est celui-là, quoi. C'est d'un coup, on est encore une fois dans plusieurs espaces à la fois, quoi. On est dans l'espace de l'enfance, on est dans l'espace vraiment réflexif par rapport à son exposition, tout ça se mêle, s'entremêle. Et voilà.
En fait, je me souviens des circuits qu'on, enfin pas des circuits, des, du fait que quand j'étais petit, je jouais. C'est aussi le fait de jouer à poser des choses sur quelque chose, sur cette surface finalement.
C'était quoi ce jeu?
Bah par exemple, je pense à quand on jouait. Avec des petits cyclistes, par exemple.
Des petits cyclistes.
Des petites figurines de cyclistes qu'on posait comme ça sur le sable.
D'accord. Et maintenant, alors, ça serait quoi ces figurines qu'ils fabriqueraient? Pour former quoi, justement?
Ça, je le lien ne se fait pas jusque-là, mais en tout cas, je veux dire, il y a une activité semblable qui est de poser des choses.
Poser les choses.
Et de construire comme ça une sorte de...
Tu aimes construire?
Je crois que j'aime bien construire. Ouais. J'aime bien la construction. Je crois que j'aime bien construire. Ouais. J'aime bien la construction.
Quel est ton but dans cette exposition?
C'est la participation au paysage.
Quels sont les trois mots que tu aimerais entendre des gens venant à cette exposition?
J'aimerais qu'ils comprennent. J'aimerais qu'ils comprennent que voilà, que c'est une fiction. J'aimerais qu'ils comprennent que c'est une proposition. C'est-à-dire que
une proposition.
C'est pas quelque chose d'absolument fixe. C'est quelque chose qui pourrait être autrement. Et selon le point de vue duquel on se place, les choses sont un peu différentes.
Concentre-toi bien. Quels sont ces mots de... Quel est ce mot de paysage?
Comment Olivier Dolinger a mis en image cette séance?
En fait, là aussi, la bande sonore est la réelle bande sonore qui a été créée, enfin qui a été enregistrée plutôt pendant la séance avec l'hypnotiseur. Par contre, l'image qu'on voit, en fait, c'est une recréation de cette séance où je leur ai simplement demandé de rester figé en reprenant un peu la grammaire de la gestuelle de l'hypnotiseur, mais figé, et la caméra tourne tout simplement autour comme on tournerait autour d'une sculpture, et donc c'est un long plan séquence, en fait. Le dispositif est une double projection où on voit du côté droit de la projection, en fait, la séance dans le déroulement temporel normal. Et l'écran de droite, en fait, est le même plan séquence, mais inversé dans le temps. Ce qui fait que, visuellement, en fait, on voit le début et la fin en un même plan séquence. Ce qui fait que, là, encore une fois, le temps est explosé, c'est-à-dire que passé, présent et avenir, en fait, s'entremêlent totalement. On voit à la fois le début et la fin de quelque chose.
Dans le cadre de l'exposition Partenaire particulier, Olivier Dolinger présente une installation dans laquelle le spectateur est invité à pénétrer seul. À l'intérieur, des médiums professionnels lui proposent d'entrer en contact avec des esprits. Celui-ci se matérialisera à travers la voix des médiums qui deviennent à la fois récepteurs, traducteurs et émetteurs. Le spectateur peut dialoguer librement en cas de contact réussi avec l'esprit d'un disparu et lui poser les questions de son choix. Ces séances individuelles de spiritisme font simultanément l'objet d'un enregistrement sonore. La cabine se transforme alors en salon d'écoute individuel où sont archivés des documents sonores réalisés dans le temps de l'exposition. Claire Moulaine, Mathilde Villeneuve.
En fait, l'extérieur de la cabine reprend un peu la grammaire, tout simplement des décors de cinéma brut, avec une glace sans teint à l'extérieur. Ça fait que de l'extérieur, en fait, c'est un énorme volume où il y a un miroir en fait au centre, une fenêtre bandeau dans laquelle finalement, lorsqu'on rentre dans l'exposition, la première chose qu'on voit, c'est soi-même. Après, effectivement, il y a une première partie de la cabine dans laquelle on rentre, qui reprend un peu la grammaire, elle, des studios d'enregistrement. Et cette fois-ci, par contre, le spectateur, lorsqu'il rentre à l'intérieur de la cabine, il voit l'extérieur. Donc il sait, d'une certaine manière, qu'il n'est pas vu tout en pouvant voir. Et dans cette partie-là, effectivement, donc, il y aura des séances de spiritisme organisées auxquelles peuvent participer les spectateurs sur demande. Après, effectivement, il y a une autre partie qui est l'arrière de la cabine, où effectivement, c'est normalement l'espace réservé aux techniciens qui enregistrent ces séances, mais petite cabine qui sera aussi accessible au public, où cette fois-ci, le spectateur voit effectivement à l'intérieur de la cabine, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est encore une fois tout un jeu sur la vision, sur le regard, sur le voyeurisme, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ne voit pas, sur le reflet, sur les frontières. C'est tout un jeu formel et dialectique là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le spectateur, finalement, se retrouve aujourd'hui, enfin, ce qui me semble, dans plein de positions différentes lorsqu'il visite une exposition. C'est-à-dire que lorsqu'il est à l'extérieur, il est spectateur d'une œuvre d'art. Lorsqu'il rentre à l'intérieur de la cabine, il est acteur. Il devient totalement acteur de l'œuvre. Et il a encore une troisième possibilité, un troisième point de vue qui rassemble un peu les deux premiers. C'est-à-dire que, en fait, c'est tout un jeu sur la perte, toujours, en fait, aussi. Mon travail parle aussi beaucoup de perte de repères, perte, etc.
Orum cum coifo. Orum cum coifo. Orum cum coifo. Ahmad Orabi. Manifeste-toi. Orum cum coifo. Orum cum coifo. Orum cum coifo. Ahmad Orabi. Manifeste-toi. Orum cum coifo. Orum cum coifo. Orum cum coifo. Ahmad Orabi, manifeste-toi. A. L. E. O. D. O, F, à la fin de chaque mot, va vers le oui pour qu'on les distingue. T'as dit un mot là, complet. Est-ce que ça a un sens?
Aliodov.
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 Ça veut dire, c'est quoi, c'est un nom que tu as dit? C'est ton nom à toi? Elle.
L'exposition partenaire particulier présente une sélection d'œuvres à spectateur unique et propose un face-à-face entre une personne et un dispositif. Est-ce qu'Olivier Dolinger a imaginé cette cabine de spiritisme pour répondre à l'invitation des deux commissaires d'exposition, Claire Moulaine et Mathilde Villeneuve ?
Non, c'est un projet que j'avais déjà imaginé avant, pas de cette manière-là précisément, mais en fait au début avec les commissaires d'exposition Mathilde Villeneuve et Claire Moulin, on avait peut-être parlé de la première pièce que j'avais fait avec un médium, puisque c'est aussi une pièce à spectateur unique, puisque c'est une pièce uniquement écoutable avec un seul casque. Et puis petit à petit, en réfléchissant, j'avais finalement envie de pousser plus loin mon travail, de sortir aussi peut-être un peu de la vidéo, médium que je pratique depuis 5 ans pratiquement uniquement. Et j'avais envie de revenir aussi à l'espace, à l'installation, au dispositif, et de trouver finalement ce qui se joue à l'intérieur de mes images vidéo, de le trouver physiquement en fait, à travers un objet qui est effectivement plus proche de la sculpture que de la vidéo. Voilà. De le trouver finalement directement dans l'espace.
Cette alchimie de l'espace et du son comme expérimentation de la lisière entre intériorité et extériorité, Olivier Dolinger l'a radicalement mise en scène dans Space Off en 2003, pièce présentée dans le cadre de l'exposition collective Les Heures Claires.
À la Villa Savoie, en fait, c'était dans le cadre d'une exposition collective, donc à la Villa Savoie, du Corbusier à Poissy. Étant donné que c'est un monument historique, il n'était absolument pas question d'accrocher quelque chose au mur, etc. Il fallait avoir une présence sans déranger le bâtiment ou s'appuyer sur le bâtiment, etc. La Villa Savoie, en fait, c'est un peu le manifeste de l'architecture moderne, surtout ce jeu entre l'ouverture, entre l'intérieur et l'extérieur, puisqu'il a complètement ouvert les murs sur un spatio, sur une terrasse. La villa est entourée de fenêtres bandeaux qui fait tout le tour. Et l'idée que j'avais eue, c'était tout simplement d'essayer de rajouter une fenêtre bandeau supplémentaire, d'une part. Une fenêtre supplémentaire, finalement, donc sur l'au-delà, sachant en même temps qu'il y avait un jeu avec, finalement, l'esprit de cette villa, l'esprit moderniste. Chez Le Corbusier, tout repose sur un esprit scientifique, fonctionnaliste, et tout ce qui est du domaine de l'occulte ou du spiritualisme a été totalement évacué finalement par la modernité. C'était un peu la bête noire de la modernité. Donc l'idée, c'était aussi de faire une sorte de rencontre improbable entre cet esprit moderniste fonctionnaliste et finalement la part d'ombre de la modernité, tout ce que la modernité a essayé de rejeter. Donc c'est un peu comme ça que je me suis intéressé finalement à tout cet univers spirit, de l'hypnose, etc. Ben finalement, dans la pièce de la Villa Savoie, j'ai demandé, donc on a fait des séances avec un médium le soir dans la Villa Savoie, et j'ai demandé au médium d'essayer de rentrer en contact avec les esprits de la villa et que ces esprits lui décrivent les lieux dans lesquels eux étaient. Donc le médium, finalement, la bande son, c'est une sorte de logorée où on voyage d'un espace fantomatique ou fictif à un autre, une sorte de déambulation architecturale donnée par les esprits à l'intérieur même de la villa et réécoutable dans la villa. Donc une sorte d'extension architecturale spirit, on pourrait presque dire. Et donc en tout cas ce travail-là, c'est vrai qu'il était vraiment basé sur l'espace, sur l'architecture. Et en même temps, j'ai commencé à m'intéresser donc à tout cet univers que je trouvais de plus en plus finalement intéressant, parce qu'il y a aussi tout un système de croyances, de fantasmes, etc., qui m'intéressait. Mais tout ça pour dire que cette première pièce qui s'appelle Space Off, justement, une sorte d'espace off, ça a posé un peu une pierre par rapport à toute cette série que je suis en train de faire, parce que pour moi, il y a des liens entre ce premier travail qui est sur l'espace. Le deuxième travail, donc, qui est le projet Norma Jean, où finalement je revisite une icône, pareil en fait, un peu de la modernité, en la faisant réinvestir chez des jeunes actrices aujourd'hui. Après, il y a eu la pièce avec le critique d'art Jean-Max Collard, où cette fois-ci on passe aux commentaires de l'exposition. Et finalement, le travail ici, où ça va être les spectateurs d'une exposition qui vont participer également au projet. Tout ça pour dire qu'en partant de l'espace physique, concret, en passant par l'image, l'icône, le commentaire de l'exposition, puis les spectateurs de l'exposition, en fait, c'est une sorte de... comment dire, de travail qui interroge finalement un peu tous les présupposés d'une exposition, d'une œuvre, de l'image, du spectateur, du commissaire, du commentaire, etc. Tout ça finalement à travers tout simplement ces pratiques occultes ou spirites, ou enfin, on pense qu'on veut après. Voilà, il y a une sorte de cohérence d'ensemble finalement dans tout ce travail, dans toutes ces pièces.
Je vois la pièce. C'est une petite pièce. Espace complètement vide et plat, rectangulaire. Et en face, il y a une porte qui ouvre sur un... J'essaie couloir de le parcourir. Je la suis. On emprunte le couloir, on s'aborde des murs au loin. Une immense pièce, grande comme un terrain, et je vois un tableau. Je continue à marcher, rouge, je tourne à gauche. J'essaie d'atteindre ce mur que je vois au loin. Je suis cette femme blonde, il n'y a personne ici. J'entends le bruit d'une pièce des ailes au mur blanc assez haut, très haut.
Elle veut me faire visiter cette maison.
Plusieurs mètres.
Le 17 mars prochain, à l'espace Paul Ricard à Paris, Olivier Dolinger organise pour la parution de son catalogue une soirée de rencontres.
Pour cette soirée, en fait, j'avais envie de reprendre finalement le matériel textuel du catalogue et de le rejouer sous une autre forme. Donc, a priori, il va y avoir en fait Clément Rosset qui va venir parler de son dernier livre qui s'appelle Fantasmagorie. Clément Rosset est un philosophe qui m'intéresse beaucoup. Son dernier livre, encore plus. Donc, il va venir parler de ce livre. Dans le catalogue, en fait, il y a un entretien que j'ai fait avec Claire Le Restif, qui est directrice du Crédac à Ivry. Et cet entretien va être rejoué par les voix françaises, les doubleurs français de la série X-Files. C'est l'agent Mulder et Scully. Donc ce sera les voix françaises qui doublent cette série, qui liront, rejoueront l'entretien. Et il y aura aussi Pascal Rousseau, qui est historien d'art et commissaire d'exposition, qui s'intéresse tout particulièrement au spiritisme, à la télépathie, etc., qui fera aussi une mini-conférence sur les artistes au 19e et 20e siècle qui ont travaillé en fait à travers, qui sont intéressés ou qui ont travaillé à travers le spiritisme, la télépathie et les sciences occultes. Voilà.
Merci à Olivier Dolinger pour cet entretien. L'exposition Partenaire particulier se tient au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'au 22 avril 2006. Elle réunit des œuvres d'Absalon, de Marceline Delbecq, d'Olivier Dolinger, de Patrick Evrard, de Francesco Finizio, de Loris Gréau, de Samantha Rajasingam et de Tatiana Trouvé. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une séance de spiritisme au sein du dispositif mis en place par Olivier Dolinger, contactez le FRAC au 04 91 91 27 55 ou à l'adresse email diffusion@fracpaca.org. Radiogramme vous a été proposé par le Fonds Régional d'Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette émission a été réalisée par Vanina Andréani, assisté au montage et aux illustrations sonores de Cyril Sec. Générique Cyril Sec. À bientôt pour un prochain radiogramme.